Voilà, mais écoutez, chers amis, ce matin, c'est un jour important. Nous célébrons 7 ans, 7 années de fidélité de Dieu envers nous. Et je me demandais sur quoi je pourrais parler, alors je vais prendre une pause par rapport à Marc. Et voici mon message. Pourquoi j'aime l'EIG ? Pourquoi j'aime l'EIG ? Je me suis dit que ce serait l'occasion de prendre une pause et de vous livrer mon cœur de gratitude. C'est vrai que je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et alors, je me suis dit, puisque c'est 7 ans, ben, je vais vous donner 7 raisons, d'accord? 7 raisons pour lesquelles j'aime l'EIG. Alors, l'EIG, il y en a beaucoup plus que 7, mais bon, j'en choisis 7. Donc, il n'y a pas d'ordre, il ne faut pas essayer d'examiner pourquoi j'ai choisi ceci et pas les 7 autres auxquels vous avez pensé, d'accord? Mais j'aimerais vraiment vous dire qu'avant tout, que le Seigneur reçoit tout le crédit pour cette Église. Et je le dis parce que Matthieu 16, 18 dit ceci, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'Église universelle, l'Église est bâtie par Christ, et donc chaque Église individuelle, petite Église, l'Église locale, sont théoriquement et devraient être bâties par Christ, et c'est ce que je pense est le cas avec notre Église. Donc voilà, je vais vous donner 7 raisons ou 7 choses que j'aime avec l'EIG, d'accord ? Tout simple, alors il n'y a même pas des points affichés ce matin, parce que c'est mon cœur, d'accord ? C'est mon cœur. Alors numéro 1, je commence tout de suite. Numéro 1, j'aime l'EIG, et pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire EIG, c'est l'Église évangélique internationale de Genève, d'accord ? J'aime l'EIG parce que c'est une Église qui est imbibée par la parole de Dieu. C'est une église qui est imbibée par la parole de Dieu. Ce que j'aime profondément avec cette église, c'est qu'elle veut à tout prix être biblique. Alors cela ne veut pas dire... Alors là, je ne m'entends plus du tout là, Simon, s'il te plaît, si je peux avoir un petit peu de retour. Cela ne veut pas dire que nous faisons tout parfaitement comme l'indique la Bible, mais c'est notre grand souhait. On essaye, même si nous avons beaucoup de lacunes et même des échecs. Mais je pense qu'on peut dire que notre plus grand souhait et d'être une église qui aimons la Bible, nous aimons l'enseigner et nous souhaitons à tout prix la mettre en pratique par la puissance et l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous aimons la Bible ? Bien tout simplement parce que la Bible est la parole de Dieu, on y reviendra dans 2 secondes. Nous savons que la Bible nous révèle qui est Dieu. La Bible nous révèle qui est le Sauveur, Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Et c'est la Bible qui nous conduit dans notre sanctification. Alors si je devais choisir un verset pour ce texte, je choisirais 2 Timothée 3,16 qui dit tout simplement « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, lorsque nous regardons la Bible, notre conclusion est que chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre, chaque livre dans la Bible est inspiré. Donc elle est soufflée de Dieu, sans aucune erreur dans les textes originaux. Ce qui veut dire que nous n'avons pas peur non plus de dénoncer l'erreur de notre ère. Bible en main, avec tact, avec humilité, avec diplomatie, mais nous prenons position pour la vérité qui est la vérité de Dieu. Il y a beaucoup de versets qu'on pourrait encore citer par rapport à cela, 2 Corinthiens 2,17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Ça, je pense que c'est une des signatures. Nous cherchons à ne jamais, jamais falsifier la parole de Dieu. Nous cherchons à tout prix de la comprendre d'une manière juste dans son contexte et l'apporter de manière juste et dans son contexte. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Chapitre 4, verset 2, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite audacieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais nous publions la vérité. » On ne l'altère pas, on essaye de la comprendre et de la livrer telle qu'elle est. Et ce qui me réjouit, c'est dans chaque domaine de notre Église, c'est ce que nous cherchons et nous essayons à le faire, au culte, mais dans les groupes de maison, à l'école du dimanche, dans les cours bibliques du soir, dans le groupe d'ados, dans le club d'enfants, dans le groupe des dames, dans le groupe des hommes, dans le groupe des jeunes mamans, etc. Nous voulons être bibliques, c'est notre souhait. Récemment, j'ai rencontré un pasteur d'une autre ville, en Suisse, et on discutait, super sympa, et il m'a demandé, on faisait connaissance, il m'a demandé qui j'étais, donc je lui ai expliqué que j'étais le pasteur de cette église. Il m'a dit « Ah, je connais votre église ». Il a dit « Je suis allé sur votre site internet ». J'ai dit « Ah ben, c'est encourageant, donc il y a au moins une personne qui va sur le site, c'est sympa, d'accord ». Et ensuite il m'a dit ceci, il m'a dit « Ah oui, alors vous êtes cette église qui est hyper biblique ». Il a dit « La Bible, c'est votre truc ». Je me suis dit « Tiens, ça c'est une remarque super intéressante ». Dans mon cœur, je me suis dit « Mais est-ce que ça ne devrait pas être le cas pour toute église ?» Ensuite, je me suis dit, écoutez, si ça, c'est la réputation qu'on a, moi, je dis amen. Moi, je dis trop bien. Donc, j'étais vraiment content et tout heureux d'avoir cette remarque par ce pasteur. Alors, bien sûr, on a une approche particulière aussi par rapport à la Bible. Comme notre devise qui se trouve sur le site de l'Église, mais aussi sur notre carte, est tout simplement, il y a un sceau, vous savez, dedans, il est dit la parole de Dieu verset par verset. Nous aimons et nous pratiquons la prédication ou l'enseignement textuel suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on prend la Bible verset par verset globalement. Bon, aujourd'hui, je fais l'exception, d'accord? Mais d'habitude, je prends la suite dans Marc et on continue ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la prédication textuelle suivie. Alors, il y a beaucoup d'avantages, hein, il y en a beaucoup. Je donne un cours, en fait, là-dessus, de temps en temps. Je vous en donne quelques-uns. L'avantage de suivre la Bible verset par verset, premièrement, au fait, c'est ce que les réformateurs faisaient. Jean Calvin, c'était le spécialiste. Et ça a créé la réforme. Donc je me dis, pourquoi est-ce que c'est tellement rare dans les églises aujourd'hui si la réforme était basée sur ce genre d'enseignement? Quels sont les avantages? Premièrement, la prédication textuelle suivie respecte la manière séquentielle par laquelle fut écrite la Bible. Elle est écrite d'une manière logique, donc nous on l'enseigne de la même manière. Deuxièmement, la prédication textuelle suivie respecte le contexte. On regarde ce qui vient avant et ce qui est après le texte. Troisièmement, la prédication textuelle suivie expose tout le conseil de Dieu. Avec le temps, on va examiner tous les passages. Bon, il faudrait quand même quelques vies au train, on y va. Mais on aborde tous les passages comme ça qui viennent l'un après l'autre. La prédication textuelle, d'accord, force le prédicateur à prêcher tous les sujets. Ça, c'est très intéressant. On ne peut pas éviter les sujets difficiles. 5. La prédication textuelle permet au prédicateur de commencer ses études le lundi matin. Moi, je ne dois jamais me poser la question de ce que je vais enseigner la prochaine fois. Donc, je peux commencer tout de suite. 6. La prédication textuelle suivie soulage le prédicateur de la pression de devoir lui-même relancer l'intérêt de son auditoire semaine après semaine. Et autre avantage, cela force le prédicateur à devoir travailler plus, parce que quand il arrive sur un sujet compliqué, il doit quand même l'aborder, etc., etc. Il n'y a que des avantages à ce style de prédication. Donc ça, c'est la première raison que j'aime cette église. 2. J'aime le IG parce que c'est une église qui est humaine et accueillante. C'est une église sympa. Vraiment, vous êtes sympa. D'accord? J'ai vraiment envie de le souligner. Et là, j'ai pensé à Romains 15, 7. Très intéressant. Il est dit ceci, « Accueillez-vous donc les uns les autres. » Mais le contexte est intéressant. « Comme Christ vous accueille par la gloire de Dieu. » Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, des juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, etc. Il est en train de dire, très intéressant, on doit s'accueillir, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres ». Il parle à qui? Aux juifs et aux païens, qui sont les deux maintenant en Christ, qui se haïssaient et maintenant ils sont appelés à s'aimer en Christ. Donc cela veut dire que ce texte dans Romains 15 montre qu'il devait en fait faire un effort. Un effort pour s'accueillir étant donné qu'il ne s'aimait pas avant. Et c'est vrai que depuis le démarrage de notre église, j'entends les gens dire à l'extérieur et qui viennent nous visiter de temps en temps, Et ça, je le dis vraiment, c'est vraiment ce que j'entends très régulièrement. Vous êtes une église extrêmement chaleureuse et accueillante. C'est ce qu'on me dit. Et ça, mes amis, c'est de la musique à mes oreilles. Je pense que c'est un défi pour une église de ville comme la nôtre. Pourquoi ? Parce que les gens sont très indépendants quand on est en ville. Ils peuvent facilement considérer l'église là où on va. Je vais à l'église le dimanche matin. Mais en fait, une église, c'est quoi ? C'est pas un lieu, c'est en fait des gens, c'est des personnes. C'est ça une église. Nous sommes l'église. Et c'est là où je pense que notre église cherche continuellement à ne pas négliger le côté humain des choses, même si on a des progrès à faire, ça je reconnais. Ça c'est le défi d'une église de ville. Mais une des manières qu'on fait, par exemple, on a un super repas canadien, là. On fait ça une fois par mois, les gens viennent, on a du temps pour discuter ensemble, c'est génial. On a des groupes de maisons aussi qui nous permettent d'avoir le côté humain dans les divers endroits de la ville. Et nous avons d'autres activités aussi. Alors parlons un tout petit peu du dimanche, d'accord ? Personnellement, je trouve que les gens dans cette église sont sympas, souriants et cordiaux. J'ai l'impression que beaucoup de nous, nous essayons d'aller vers les personnes qui visitent pour la première fois et on n'a pas peur de leur dire bonjour. Je crois qu'on a de l'effort à faire, mais globalement, je pense qu'on essaie de le faire. Les gens dans cette église aiment être avec leurs amis, parler avec eux, mais sont sensibles aux personnes nouvelles qui découvrent l'EIG. Ils n'hésitent pas un instant de s'excuser de leurs propres amis pour aller parler avec quelqu'un qui peut-être se trouve tout seul et peut-être prendre cette personne et essayer de l'inviter dans le groupe et le présenter aux uns et aux autres. N'oublions pas d'essayer d'inclure les nouveaux dans le groupe dans lequel on fait partie ou avec les gens avec qui on aime passer du temps. Rappelez-vous, mes amis, ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez mis les pieds dans cette église ou dans une église. Écoutez, c'est pas toujours évident de franchir la porte là, de dire « je rentre dans quoi ?» Et je pense vraiment que notre espace accueil, notre service café, notre table de bienvenue est un côté extrêmement sympa et réussi de notre église. Je l'avoue, hein. Moi, j'arrive le dimanche matin. Bon, aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a un repas. Mais j'aime beaucoup. Là, je sors de l'ascenseur, je descends le hall. Et là, je vois le parasol vert. Bienvenue à l'EIG. Et j'entends les cafetières qui sont en train de moudre le café. Je me dis, c'est super accueillant, ça, quand même. Alors, bien sûr, c'est un petit côté sympa et humain, mais qui est vraiment, vraiment sympa. Moi, il y a des années de cela. Je me rappelle parce que ça m'avait tellement marqué, j'avais invité dans une autre ville, dans une autre église, je ne vous dirai pas laquelle, d'accord ? Enfin, vous ne la connaissez pas. Et j'étais invité dans cette église et je suis arrivé une demi-heure à l'avance. Je suis arrivé, il y avait déjà du monde. Je n'exagère pas. Personne ne m'a dit bonjour avant 5 minutes avant le culte, pendant 25 minutes. Personne. Et j'étais le pasteur invité. Après le culte, personne n'est venu me remercier. Alors je me suis dit, deux possibilités, ou bien mon message était vraiment nul, ça c'est possible, ou bien simplement qu'il n'avait pas été sensibilisé au besoin d'accueillir les gens. Je me rappelle d'être parti de cette église ce jour-là, je me dis, j'espère que jamais dans ma vie je serai pasteur d'une église comme ça. Où les gens vraiment soient cœur ouvert, ils vont vers les gens pour les accueillir. Je me rappelle quand je venais de commencer mon ministère d'aumônier du Genève Servette Hockey Club. Alors moi, je rentrais dans leur monde. Et moi, c'était un monde que je ne connais pas. Moi, les vestiaires d'une équipe de hockey, c'était pas du tout. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Déjà, il faut saisir et, comment dire, oser passer le côté odeur. D'accord ? Mais ça, c'est un petit truc. Mais je me rappelle, j'étais là et c'est les premières fois où j'y étais. Et il y avait une porte qui rentrait dans le vestiaire du couloir. Moi, j'avais carrément peur de rentrer dans leur monde. Et je me rappelle un jour, la porte, elle ouvrait, elle fermait. J'étais là, je ne sais pas trop quoi faire. Je me sentais complètement gauche, mal à l'aise et tout. La porte s'est ouverte, elle est restée ouverte. Et un joueur de l'autre côté, il me voyait. Il m'a dit, John, viens, rentre devant tout le monde. Il dit, rentre, t'es la bienvenue, rentre. Et là, je me dis, waouh! Alors, je suis rentré, mais alors tout petit. Il m'a dit, viens, viens. Il s'est levé, il m'a accueilli devant tous les joueurs. Et là, waouh! Ça m'a fait un de ces biens d'être accueilli dans leur monde. Et mes amis, nous devons faire pareil. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas cette culture et ils sont peut-être un petit peu gênés. Et on doit tout faire vraiment pour les accueillir. Donc, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Vous allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas compliqué, je vous donne quelques questions à leur demander, c'est tout simple. Vous allez vers quelqu'un, vous dites « Oui, bonjour, je m'appelle ». Bon, moi je dirais « Je m'appelle John Glass et vous, comment vous appelez-vous » C'est facile ça, non? D'accord. Deux. Depuis combien de temps fréquentez-vous l'EIG? Alors là, vous serez surpris. Certains vous diront « Un an ». Ah ouais? Je t'ai jamais parlé? Non. Ah ouais, d'accord, bon ben voilà. D'autres vous diront « C'est la première fois ». D'accord. Trois. Comment avez-vous eu connaissance de l'EIG? Quatre. Que faites-vous dans la vie? 5. Avez-vous une famille? 6. De quel pays êtes-vous? 7. La question peut-être la plus importante. Puis-je vous présenter à quelqu'un? Et vous prenez la personne et vous la présentez à quelqu'un d'autre. Et la personne dit « Bonjour, je m'appelle tel et tel, comment vous appelez-vous » Et c'est reparti avec les questions, d'accord? Ça paraît tout bête, mais écoutez mes amis, c'est ça l'accueil. C'est de s'intéresser aux autres. Vous le faites très bien, merci de tout cœur. 3. 3. Pourquoi j'aime l'EIG? J'aime l'EIG parce que c'est une église, troisièmement, remplie de gens qui servent généreusement et qui ont du zèle. J'aime beaucoup Romains 12, 11, qui dit ceci. C'est une église qui sert, d'accord? Écoutez, Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Voilà, un chrétien est appelé à servir. Et honnêtement, et là, vous allez peut-être être surpris, je suis impressionné par le zèle au service qui existe dans cette église. Alors, il y a trois parties de ce verset. Premièrement, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Paresse est un mot intéressant, c'est le goût pour l'oisiveté, comportement de celui qui évite l'effort. Un paresseux, c'est quelqu'un qui voit l'effort et il ne veut surtout pas être embarqué dans un truc où il doit faire de l'effort, d'accord? Donc il dit qu'on ne devrait pas être paresseux, on devrait avoir du zèle. Soyez fervent d'esprit, le mot « zeonontes » veut dire « bouillir ». Bouillir, une sorte de vivre ardeur à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a touchés à l'intérieur de notre être, maintenant on a envie de le servir en retour. Christ nous a servi en mourant pour nous, nous on veut le servir en retour. Et troisièmement, il dit « Servez le Seigneur ». Servir le Seigneur, ah, ça c'est intéressant. Le service que j'entreprends dans l'Église pour quelqu'un, peut-être, voilà, prenons l'exemple, on a un grand repas canadien aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont donnés pour préparer déjà les repas, préparer la salle, préparer tout. Ils ont servi. La question c'est ça. Est-ce que je sers les hommes ou en fait le Seigneur? Est-ce que ma motivation c'est, voilà, je dois servir parce que comme ça quelqu'un verra que j'ai servi et puis je serai bien vu? Ou bien est-ce que je sers par reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait en moi? Et je dis, waouh, Seigneur, voilà, tu connais mes dons, tu connais mes... C'est comme exactement on a entendu les dunans, Seigneur, voilà, prends toute ma vie, je veux te servir. Dans n'importe quelle capacité. Dans Romains 1, Paul dit qu'il est esclave de Dieu. Est-ce que je me considère réellement esclave de Dieu? Dieu, je suis ton esclave. C'est beau, non? Dans 1 Samuel 12, 24, petit verset intéressant. 1 Samuel 12, 24, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ça, c'est à quoi Dieu nous appelle. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens dans cette église servent le Seigneur exactement de cette manière. Alors, il faut le dire, il y a un danger avec les gens qui ne servent pas. Il y a certaines personnes hein, qui peut-être veulent recevoir, ils cherchent une église, et on est tous peut-être un petit peu comme ça de temps en temps, hein, quand on cherche une église, on veut voir ce qu'on peut recevoir. C'est pas nécessairement mal. Mais avec l'idée qu'on va commencer à servir. Qu'est-ce qui se passe si on rentre dans une sorte de mécanique de non-service? Vous savez ce qui va se passer? On va devenir très critique. L'Église devient un show à évaluer, pas un endroit où servir. On écoute et on évalue. On dit bien, pas bien, nul, très très bien, super, pas bien. Hein, ça peut arriver comme ça. Et ils seront tôt ou tard pas très contents avec l'église dans laquelle ils sont tombés, donc ils vont aller autre part et recommencer. Et ils vont papillonner beaucoup. Parce qu'ils ne seront jamais heureux. Ça, c'est dangereux. Non, notre optique doit être, je veux servir le Seigneur avec bouillonnement, avec zèle. Je veux faire partie de la solution. Alors, d'évaluer un problème dans l'Église ou une lacune, ok, ben écoutez, peut-être que je vais être la solution. Peut-être que je peux aider dans ce domaine lacunier. Ah, ça, c'est une belle perspective, vous ne trouvez pas? Donc, je pense que chaque chrétien devrait choisir une Église proche de ses convictions théologiques, devenir membre, décider d'utiliser ses dons et ses talents et son argent pour servir le Seigneur, bien sûr au travers d'autres chrétiens et d'autres besoins. Mais on doit investir nos vies dans une église locale. Très important ça. Alors moi j'aimerais vraiment vous remercier pour votre service. Je commence avec les anciens. Vous savez, les anciens, on est 4 anciens dans l'église, mais les anciens servent en tant qu'anciens, mais chacun d'eux s'occupe et supervise un domaine, un gros domaine de l'Église, et en plus, ils ont leur travail régulier. Donc tout ça, c'est en plus, pour ceux qui ne sont pas plein temps. Moi, je suis plein temps, donc dans le ministère, mais eux pas. Je pense pareil pour les diacres et les diaconesses qui ont tous ou toutes des responsabilités importantes. Tout ça, c'est en plus dans leur travail. D'innombrables d'autres personnes dans l'Église font exactement pareil. Écoutez, j'ai fait un calcul, juste pour m'amuser cette semaine, d'accord ? Je voulais voir vraiment comment on était au niveau du service dans l'Église. Donc j'arrondis les chiffres. Nous sommes environ 200 personnes dans l'Église aujourd'hui, avec les enfants. On nous a dit récemment qu'il y a environ 60 enfants. Donc j'élimine 60 enfants. On est environ 140 adultes. Sur les 140 adultes, on est 81 membres officiels. Donc à partir de l'Assemblée Générale la semaine dernière. Donc j'ai moi-même vite parcouru la liste des membres. Et j'ai compté 66 membres qui servent d'une manière ou une autre dans l'Église. D'accord ? 66 membres qui servent d'une manière ou une autre dans l'Église sur 81. Ça veut dire, et on a fait deux fois le calcul, que 81% des membres de l'EIG servent d'une manière ou une autre dans l'Église, que je sache. Mais il est bien possible, puisque je ne connais pas tout le monde et tout ce que tout le monde fait, que d'autres servent dans des domaines où j'ignore. Je me dis, 80%, 81% des gens dans l'Église qui servent des membres, moi, ma première réaction, c'est de dire, mais c'est énorme, quelque part, c'est énorme. Et moi, je dis merci. Mais j'ajoute un autre point. Notre Église sert le Seigneur d'une autre manière impressionnante, c'est au niveau libéralité ou générosité financière. Moi, je regarde notre budget, vous pouvez venir à l'Assemblée Générale, tous les chiffres sont ouverts. Mais je me dis, mais c'est incroyable la générosité de notre Église. Ce que les gens donnent. Donc, et ils donnent non seulement pour le budget, mais pour d'innombrables d'autres choses. Beaucoup de domaines hors budget en plus. Écoutez, moi je suis bouche bée, je trouve ça beau. Oui, je trouve que notre Église sert le Seigneur avec zèle. Oui, on peut faire des progrès, mais je dis, moi, chapeau, vraiment. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, une dernière pensée sur ce point. J'entends parfois dire la remarque qu'il n'y a pas assez de gens qui servent. Parce que certains ministères manquent de personnes. Et ça, c'est vrai. On a des ministères qui manquent cruellement de personnes. Alors, que dire ? Ben, je pense que c'est peut-être un peu normal. Nous avons beaucoup de ministères dans l'Église, peut-être trop, il faudrait qu'on évalue, peut-être qu'il y a trop de choses, je ne sais pas. Mais donc le nombre de personnes qui servent dans chaque ministère est parfois maigre. C'est normal. Plus on a de ministères qui requièrent du monde pour le service, moins il y aura de monde pour servir dans tous ces ministères. C'est logique. Et je prends un ministère parce qu'on le connaît tous, c'est l'école du dimanche. Il y a certains ministères qui demandent beaucoup de personnel pour entourer 60 personnes, 60 enfants. On a 4 classes d'école du dimanche, il en faut 2 voire 3 personnes par classe par dimanche. Donc imaginez. Et ça c'est un beau service, on peut venir, on peut déposer notre enfant, il est pris en charge, et ensuite on le récolte une heure et demie plus tard, c'est parfait. Mais qui fait tout ce travail ? Ce sont des volontaires, des gens qui servent. Et donc ça c'est qu'un exemple d'un ministère qui requiert beaucoup de main d'œuvre. Oui, on est une sorte de grosse opération, on peut le dire. Et plus l'Église grandit, si elle continue de grandir, plus nous aurons besoin de personnes qui servent. Et donc, quelque part, c'est un problème et un privilège sans fin. Bienvenue au monde des Églises, mes amis. Je pense que toutes les églises disent la même chose. On n'a pas assez de gens qui servent. Oui, ben, c'est un peu normal parce qu'il y a tellement de choses à faire. Vraiment. Donc merci à tous ceux qui servent fidèlement de servir avec zèle et bon cœur. Et moi j'appelle à tout le monde, peut-être vous êtes là, vous dites, bon écoute, peut-être j'ai un don, j'ai quelque chose que je pourrais offrir à l'église. C'est peut-être le moment de poser cette question et d'amener ça devant le Seigneur et voir comment vous pourriez aussi aider. Je vais citer John Kennedy, d'accord ? John Kennedy l'a dit ceci par rapport à son pays, moi je dis par rapport à l'église, ne demandez pas ce que l'église peut faire pour vous, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour l'église. 4. J'aime le IG parce que c'est une église qui est très internationale. Très internationale. En fait, notre église est tellement internationale que nous lui avons donné le nom international. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même assez international. Mais écoutez, ça tombe bien. Genève est une ville internationale. Et moi, j'aime le fait que notre église est un reflet réel de la situation de la ville dans laquelle nous nous trouvons. Moi, je pense que ce nom, il est parfait pour notre église. Alors, je vous donne deux exemples de l'internationalité de notre église. Récemment, nous avons eu l'information qu'il y a un couple qui va se marier dans notre église. Un beau mariage qui se dessine, David Bocco, qui est donc béninois, qui va épouser Anne-Lise, qui est une sœur française. Mais écoutez bien, ils préparent leur mariage avec un pasteur américain qui est pasteur d'une église suisse. Bonjour l'internationalité de notre église. Prenons le conseil d'anciens de notre église. Il est constitué d'un Suisse espagnol, d'un béninois ou Suisse béninois, d'un roumain et d'un américain. Bonjour l'internationalité de notre église. Eh oui, on est super international. Alors pourquoi est-ce que j'aime ce côté international? Plusieurs raisons. Numéro un, parce que le ciel va être international. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, c'est une vision du ciel. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, que tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Mes amis, écoutez, on va être hyper international là-haut. Donc ça commence ici. Et on voit aussi par exemple dans Éphésiens 2, le mystère de l'Église. Très intéressant, le mystère de l'Église. Chapitre 2, verset 11, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main d'homme, donc qui comparent les juifs et les non-juifs. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de la cité d'Israël. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, donc il parle des non-juifs. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Maintenant, regardez, chapitre 3, verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Oui, le mystère de l'Église, c'est l'internationalité de l'Église, quelque part. Juifs et païens réunis. Je pense qu'aussi le fait qu'on est international nous force, ça c'est vraiment intéressant, c'est un défi, nous force à être biblique et non culturel dans notre approche du ministère. Et ça, c'est quelque chose que je continue d'apprendre. En tant que pasteur, moi, je ne dois pas prêcher ma culture américaine ou française ou suisse, parce que je suis un peu confus exactement sur qui je suis exactement, d'accord ? Comme beaucoup de vous. Donc, je dois faire abstraction, je devrais faire abstraction de ma culture. Ça, c'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas se défaire complètement de sa culture. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'être biblique. C'est pour ça que j'essaie de m'attacher vraiment à la Bible. Parce que c'est intéressant que la Bible, elle est internationale. La Bible s'applique à chaque nationalité, à chaque personne dans cette église, quel que soit votre arrière-plan, votre culture, tout. Et donc, ça, c'est un défi. Mais j'aime ce défi. John, est-ce que ce que tu dis, c'est biblique ou culturel ? Et nous, en tant qu'anciens, parfois, on discute de ça. Parce qu'on a tellement de culture, on se dit, alors, là, est-ce que ce ministère ou cette chose dans l'église qu'on est en train d'envisager, est-ce qu'elle est culturelle ou biblique ? Et ça demande de l'humilité. Et je pense qu'il y a un autre défi, mais un bon défi. La nature humaine fait qu'on aime être avec les gens de sa propre culture. On le voit souvent après le culte, hein, il y a des gens de langues similaires, de cultures similaires qui aiment parler ensemble, c'est normal. Et on aime tous le faire. Mais une église internationale nous force d'aller vers les autres. Après tout, ce sont nos frères et nos sœurs. Donc on doit aller vers les autres, discuter, apprendre à les comprendre. Donc profitons de nos amis, mais prenons ce petit pas courageux pour aller vers les autres de quelqu'un d'une culture complètement différente et leur poser des questions, apprendre cette culture. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas le paperboard, d'accord ? Avant de partir, vous, si cette église, c'est votre église régulière, allez marquer votre nationalité. Bon, s'il y est déjà, vous ne la remarquez pas, d'accord ? Allez, vous faites un petit trait dessous pour dire, voilà, j'ai quand même marqué quelque chose. Mais voyez, donc on ne va pas, vous mettez une fois votre trait, d'accord ? Vous pouvez faire une fleur si vous voulez, mais il faut que ça soit lisible, d'accord ? Et on va voir combien de nationalités on représente aujourd'hui. C'est sympa. Cinq. J'aime l'EIG parce que c'est une église qui a à cœur l'évangélisation. C'est une église qui a à cœur l'évangélisation. Dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aime aussi Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous l'ignoriez peut-être, mais je tiens un registre de l'Église. Bon, il n'est pas tout à fait à jour, d'accord ? Quelques statistiques, juste pour qu'on se rappelle, sinon je savais qu'on allait oublier. Alors, pendant 5 ans, j'ai tenu une liste des conversions des personnes qui ont un jour ont rencontré Jésus-Christ personnellement et qui nous l'ont fait savoir d'une manière ou une autre, liée à l'Église, bien sûr. Alors, vous serez étonnés. J'ai gardé ce registre de 2007 à 2012. D'accord ? En 5 ans, il y a eu 26 conversions. 5 par an environ. Moi, je me rappelle, le premier anniversaire de l'église, une dame était ici qui fréquente notre église. Et elle est venue vers moi avec un autre frère. Elle a dit, écoute, c'est aujourd'hui que je veux donner ma vie à Christ. Je me sens convaincu de mon péché. Je suis sûr que je suis pécheur, pécheresse, elle disait. Je veux que Christ me pardonne mon péché. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant ? Alors on était là-bas, dans le chambre, dans le chambre de dépôt là-bas. On a fermé la porte et à 3, on a prié. Et cette dame a ouvert son cœur à Christ. Elle a demandé à Jésus-Christ de la sauver. Et depuis, elle est fidèle dans cette église. Et il y a plein d'histoires comme ça. Il y a un jeune qui est venu me voir il y a quelques temps en arrière. Il m'a dit, John, quand tu faisais la série sur l'inspiration de la parole de Dieu, un jour, j'étais convaincu de mon péché, et là, pendant le culte, j'ai demandé à Jésus-Christ de devenir mon sauveur et mon Seigneur. Pendant le culte, je ne savais même pas. C'est génial. Il y a plein d'histoires comme ça. À l'école du dimanche, combien d'enfants ont articulé le désir de connaître Christ personnellement dans cette église. C'est tellement beau à voir. Et récemment, d'autres personnes qui ont rencontré le Seigneur dans cette église. C'est une chose régulière. Depuis 7 ans, nous avons eu 29 baptêmes, 4 par an. Et vous savez que pour janvier, là, il y en a déjà 6 d'inscrits. Alors, comment est-ce que nous faisons l'évangélisation ? Il y a plusieurs manières, personnelles, beaucoup de vous, dans votre lieu de travail, avec vos voisins, dans vos familles, vos amis. Vous trouvez une occasion pour leur annoncer l'évangile. Nos concerts de Noël, c'est une manière, une plateforme que Dieu nous a donnée. Des cultes spéciaux comme celui-ci, ou les cultes de présentation d'enfants, de baptême, repas canadiens. Au cours biblique du soir, là, on a eu un sujet sur l'art d'être marié des parents. Il y a eu des gens qui sont venus, qu'on ne connaissait pas trop. On ne sait pas trop où ils en sont spirituellement. Peut-être que c'est des gens qui vont découvrir le Seigneur par ce moyen. On a aussi notre émission radio qui passe tous les dimanches. Là aussi, peut-être, il y a des gens qui découvrent le Seigneur. Alors, bien sûr, certains se disent, ouais, mais, par exemple, on pense à nos concerts, où est le fruit? On aimerait du fruit. Ben ouais, moi aussi, j'aimerais du fruit, vous savez. Hein. Oh là là, si vous savez comment j'aimerais plus de fruits. Ah, je lis acte 2, acte 5, et je vois 5 000, 3 000 personnes qui se convertissent d'un coup. Je me dis, mais nous, Seigneur, nous, c'est 5 par an. Seigneur, donne-nous 3 000. Peut-être, il dit, je crois pas que vous allez pouvoir gérer si je vous en donne 3 000, d'accord? Mais c'est intéressant quand même d'y penser. Alors voilà, juste quand même pour nous encourager, nous sommes appelés à prêcher l'Évangile. Ça, nous essayons de le faire. Mais n'oublions pas ce que Jésus a dit. Il nous a averti que peu de gens vont recevoir Christ. Peu de gens. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 7, 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Même Jésus a annoncé que ce ne seraient pas les foules qui viendraient au Seigneur. Alors il y a des poches de réveil comme ça, ça arrive, mais ce n'est pas la norme, et surtout pas dans l'Europe occidentale, là où nous sommes. Nous sommes dans un monde post-chrétien, et c'est peut-être un des endroits les plus difficiles au monde pour voir du fruit, pour voir des gens qui sont convaincus de leur péché et qui viennent à Christ. Et je vous donne une autre pensée. Jésus a passé quand même presque 2 ans à Capernaüm. Et à Capernaüm, il a fait la plupart de ses miracles, il a donné la plupart de ses sermons. À Capernaüm, et dans Matthieu 11, 23, voici ce qu'il dit. « Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ?» Réponse, non. C'est Jésus qui parle. « Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Moi, ce texte m'a toujours interpellé parce que même Jésus à Capernaüm, si on pense aux statistiques, c'était un échec. C'est un échec. Il a donné quoi, presque 2 ans de sa vie pour une ville et il la condamne en enfer pour incrédulité. C'est comme incroyable. Ça, c'est Jésus. Donc je me dis, voilà, oui, bien sûr qu'on souhaite plus de fruits, mais ça, ce n'est pas notre travail, mes amis. Notre travail, c'est de semer. Nous sommes appelés à semer et à semer. Et lorsque les gens sont confrontés par l'Évangile, ils sont responsables pour leur choix devant Dieu. Ce n'est pas moi, c'est eux. Mais nous devons être fidèles à annoncer l'Évangile. Et donc, acte 16, 14 m'encourage beaucoup, qui dit ceci par rapport à Lydie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. 6. J'aime le IG parce que c'est une église qui ose être visionnaire. Qui ose être visionnaire. Vous vous rappelez dans acte 16, Paul voulait aller en Asie, il voulait aller en Bithynie. La porte a été fermée. Il s'est retrouvé en Macédoine. Mais il avait un désir. Il avançait sur ce qu'il pensait qu'il devait faire. Dans Romains 15, Paul voulait aller en Espagne, mais il n'est jamais allé en Espagne. Vous savez, moi j'ai fait le bilan de ces dernières 7 années, c'est incroyable la vision que Dieu nous a donnée pour dire où on en est aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Déjà quand on se demandait par rapport à où trouver un endroit, l'hôtel est arrivé, j'en parlais dans quelques instants. On se disait, waouh, un hôtel, c'est inhabituel, c'est cher, on n'était pas nombreux, c'est une prise de risque. À un moment donné, on a dit, on y va. Ensuite, 2 ans plus tard, l'Event Center, ici, s'est ouvert à nous. C'est aïe, 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 c'est grand, c'est cher. Ben, on y est. Ensuite, on a réalisé, waouh, il nous faudrait rémunérer le directeur de la louange parce qu'on arrive à peine suivre. Mi-temps, on n'ose pas. Tac, On s'est lancé. Ensuite, c'est ces concerts de Noël fous. C'est la folie, ces concerts de Noël monstrueux à Genève. On y va ou on n'y va pas? Ben, le Seigneur pourvoyait de l'argent, c'est-à-dire on y va. Et on continue. C'est incroyable. Ensuite, on a réalisé que pour le son, il nous fallait aussi rémunérer quelqu'un parce que c'était compliqué. Alors on se lance, on s'est lancé. On rémunère quelqu'un pour le son. Et ensuite, l'Église a décidé de soutenir financièrement votre serviteur. Et ensuite, récemment, une quatrième salle d'école du dimanche. On s'est dit, on fait ou on ne fait pas? Allez, on se lance. Puis dernièrement, une rémunération plein temps d'un project manager pour l'Église, pour JICO, pour le son. On n'ose pas, on y va. Mais je me dis, t'en vas, en 7 ans, ce qu'on a fait, c'est presque de la folie, je me dis. Moi, je suis bouche bée, je me dis, mais c'est incroyable. Toutes ces choses dans lesquelles on s'est lancé par la foi, et le Seigneur, ben, il a ouvert ses portes. Alors, il peut les refermer, s'il veut, il n'y a aucun problème. Mais je me dis, c'est quand même génial de voir que le Seigneur nous guide, mais en même temps, qu'on ose être un peu visionnaire. Et ça, ça mène au 7e ou dernier point. J'aime l'EIG parce que c'est une église. C'est pas un point très spirituel, mais je vous le donne quand même. C'est une église qui se réunit dans un hôtel. Alors, j'ai pas de verset sur ce point-là, d'accord? Mais honnêtement, là, c'est mon cœur, d'accord? Moi, j'aime beaucoup le fait se réunit dans un hôtel. C'est vrai qu'au début, j'étais pas sûr comment ça allait fonctionner. Je me rappelle la première fois qu'on a visité l'endroit, les portes là étaient fermées, puis on a regardé à travers. Et je me rappelle dans mon cœur, confession, je me suis dit, ce serait génial si un jour on pouvait se réunir dans l'Event Center. Jamais j'aurais imaginé que 2-3 ans plus tard on y serait. Jamais. Jamais, jamais. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, ben, on a déjà entendu tout à l'heure, 2007, réunion de prière. Ensuite, ça a bifurqué chez José, dans son jardin, avec Elsa aussi, bien sûr. Et ensuite, tout cet été, le groupe a grandi, il n'y avait plus de place. On s'est dit, bon, on va louer quelque chose, c'est compliqué à Genève. On a contacté beaucoup d'églises pour voir si on pouvait co-louer des églises. Rien à jouer. Et finalement, José, je crois que c'est toi qui connaissais le directeur à l'époque du centre commercial de la Praille. Ah, David Sanchez connaissait le directeur, on nous a mis en contact. Le directeur connaissait le directeur de l'hôtel, ils nous ont tous mis en contact. Et finalement, on s'est rencontrés, et moi je dois dire que l'hôtel Ramada a pris un risque avec nous. Ben oui, ils ont pris un risque. Attendez voir, on est une église évangélique. Ça fait peur pour certains. Ils ne savent pas trop ce que c'est, les évangéliques. C'était peut-être pas très rassurant, mais le courant a très bien passé. Et ça fait maintenant 7 ans. 7 ans qu'on loue ici. On a commencé dans 3 petites salles du centre de conférence aujourd'hui. 7 ans plus tard, on a l'Event Center et 4 salles de l'école du dimanche. Alors bien sûr, à plusieurs reprises, on s'est demandé, mais est-ce qu'on devrait peut-être acheter quelque chose? Alors pour des tas de raisons, à cause des prix aussi à Genève, il y a quelques années en arrière, on s'est dit, est-ce qu'on devrait investir dans des locaux ou investir dans du personnel? Et on s'est dit, voilà, on va prendre le côté investir dans les gens. Et on va attendre que le Seigneur nous donne quelque part, c'est très cher ici, quelque part, et entre-temps, on va continuer à louer. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire, et moi personnellement, je pense que le choix était très très bon. Quels sont les atouts de l'hôtel Ramada encore? Alors juste les atouts, d'accord. Premièrement, la place illimitée. C'est rare, on a un rideau là, s'il nous faut plus de place, tac, on tire le rideau, on continue. Mais on est peut-être la seule église à Genève qui avons ce privilège de la place illimitée. Ça, c'est rare. Ensuite, 4 salles d'école du dimanche. Parking 3000 places. C'est quand même pas mal, ça. Un endroit moderne, sans le feeling d'une église traditionnelle. Alors, entendez-moi bien, il n'y a pas de mal avec une église traditionnelle, mais rien dans la Bible dit qu'on doit se réunir dans une église traditionnelle. Et je pense que de se réunir dans un hôtel, ça colle avec la ville de Genève. Je pense que c'est très bien pour les visiteurs, mais aussi nous. C'est une très belle prestation que nous avons. Et en plus, nous avons un food court juste à côté, Écoutez, on est peut-être la seule église à Genève avec 5 restaurants ouverts chaque dimanche à 2 minutes à pied de notre salle sans devoir aller dehors, incluant McDo, un kebab, une cafétéria coop, un restaurant chinois, une sandwicherie, 7 salles de cinéma, un bowling et un fitness, tout ça ouvert pour nous juste après le culte. C'est quand même incroyable. Et je pense que ça favorise le côté humain de l'église quelque part. Tous les dimanches, il y a au moins entre 10 et 20 de vous, j'ai l'impression, qui allez manger là-bas. En fait, je pense qu'on devrait essayer d'organiser plus pour que les nouveaux qui viennent peuvent aussi aller manger avec nous qui allons là-bas. Bref, on est tellement, tellement bénis.